Merci Béja pour ce rêve. Je n'étais pas au courant de ce rêve. Laurent m'a partagé dans la semaine. Écoute, Béja a reçu quelque chose. Et avant la prédication, est-ce que tu veux bien lui laisser la parole? Et ouais, je pense que ça confirme bien tout ce qu'on a reçu ensemble en Église, de la mission qu'a l'Église dans cette région. La mission est grande. Il y a de grands besoins. Et Dieu désire une église engagée. Une église engagée. Merci en tout cas pour ce songe que tu nous as partagé. Alors pour débuter cette prédication, un thème un peu sensible, complexe. Si vous vous référez au dernier morceau qu'on a chanté, là dans le feu, mon titre du message ce matin, c'était Rassurer même dans le feu. Cette semaine, la Belgique a fait ressurgir des cicatrices vieilles de 25 ans. Pour beaucoup de monde, c'était un moment difficile. On a connu une tragédie hors du commun avec l'affaire du trou et on a pu se remémorer cette semaine que tout un pays s'est mobilisé pour venir en soutien aux familles des victimes et réclamer une justice plus efficace. Cette semaine, la Belgique s'est souvenue qu'elle est passée par une épreuve terrible. Parce que les parents de Julie, Mélissa, Laetitia, Sabine, Anne et Fieu, ils ont vécu vraiment ça comment je veux dire, d'une manière, je ne pourrais même pas l'expliquer, ça doit être horrible. Mais je pense que tous les parents, toutes les familles ont pu s'identifier à ça et ont connu certainement une crainte immense pour leurs enfants. Ils ont eu peur de rentrer dans la même épreuve que ces malheureux parents. Alors je sais que l'introduction n'est pas des plus joviales, on est bien d'accord, je vous l'accorde, mais les épreuves auxquelles nous sommes confrontés au quotidien ne frappent pas à la porte en nous prévenant qu'elles vont impacter nos vies. Les épreuves, on ne reçoit pas un SMS de notification comme les opérateurs téléphoniques peuvent faire. Ah, ben attention, tu arrives à 80% de ton data, donc fais attention parce que sinon tu vas passer à 10 euros en plus sur ta facture. Les épreuves ne font pas ça. Elles ne nous annoncent pas, attention, je suis à 80% de mon voyage et dans 20% encore 20% et je suis là et je vais impacter ta vie et tu vas être stressé, angoissé, etc. Ça ne se passe pas comme ça. Tous, nous avons déjà vécu petite, moyenne, grande épreuve. On a réussi à les gérer bien, moins bien. Et c'est pourquoi il est important de pouvoir avoir une perspective biblique sur l'épreuve. Alors, mes questions pour ce matin, pour pouvoir nous orienter un petit peu sur ce sujet, c'est quelle est la place de l'épreuve dans notre vie? De quelle manière vivre ces difficultés? En tant qu'enfant de Dieu, comment appréhender ces difficultés? Comment comprendre la bénédiction de Dieu sous la pression des épreuves qui nous tombent dessus au quotidien? Alors, mon intention au travers de ce message n'est pas de vous accabler, d'accord? Mais je pense que nous ne pouvons pas occulter les nombreuses ressources que Dieu met à notre disposition pour nous permettre de vivre au travers de l'épreuve. Alors, on retrouve dans la parole de Dieu de nombreuses histoires, de nombreux récits de héros de la foi, de pères de la foi qui ont vécu des épreuves terribles. On peut penser à Joseph, on peut penser à Jésus lui-même. En fin de compte, Jésus qui arrive sur la terre, il est né, il a à peine quelques jours, et il y a déjà Hérode qui veut le faire tuer. Et les parents de Jésus vont devoir s'exiler en Égypte pendant un moment, le temps que la situation s'apaise. Donc, des épreuves, on en vit tous. Et on peut retrouver énormément de récits dans la parole de Dieu. Pour pouvoir poser un cadre, il nous faut comprendre pourquoi tant d'épreuves et à qui elles sont adressées. Et pour ça, je vous demande d'ouvrir l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. À partir du verset 32 jusqu'au verset 40. Il est mis. Et que dirais-je encore ? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés et mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brebis ou de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. Amen. Donc pour remettre ce texte un petit peu dans un contexte, l'auteur de l'Épître est en train d'encourager les lecteurs à persévérer dans la foi. Oula. À persévérer dans la foi. Pardon. Et de garder intacte l'œuvre parfaite que Christ a accomplie. Par le sacrifice de Jésus, nous avons désormais l'assurance d'un libre accès dans la présence de Dieu. Et même si pour le moment nous n'expérimentons pas la pleine gloire de Dieu, par la foi nous savons ce à quoi Dieu nous destine, l'éternité dans sa sainte et glorieuse présence. Donc, avec ça, l'auteur de l'Épître nous guide dans une réflexion qui aboutit au sujet de la souffrance et de la douleur. Et il nous donne des exemples d'hommes et de femmes de foi qui ont eu confiance en Dieu et qui ont triomphé de leurs épreuves. D'accord ? On voit qu'il y a David qui a vaincu Goliath, il y a Daniel qui a été sauvé de la gueule des lions, il y a Gédéon qui a été fort dans la bataille, il y a Néhémie qui a rebâti les murailles. Mais il ne s'arrête pas là. Il termine en donnant d'autres exemples, d'exemples d'hommes et de femmes qui ont la foi, qui ont la confiance en Dieu, mais qui n'ont pas connu le triomphe dans leurs épreuves. Ces héros de la foi ont supporté l'épreuve. Il est mis quand même, enfin, moi ça m'a quand même frappé, moquerie, fouet, prison, lapidé, scié, mort par l'épée. À l'époque, les chrétiens n'avaient pas la même vie que nous. Quand on était chrétien, la normalité, c'était la persécution. La normalité, c'était la persécution. Et donc, toutes ces personnes, elles n'ont pas obtenu ce qu'elles attendaient. Ce qu'elles attendaient, c'était quoi ? C'était pas de la prospérité, c'était le retour de Jésus-Christ. Mais Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour eux et pour nous, l'espérance de sa sainte présence pour l'éternité. Alors mes amis, voici une vérité pour nous en introduction à ce sujet sensible et complexe. Nous pensons que notre vie sera exempte de difficultés à cause de notre foi, mais c'est au travers des épreuves que notre foi produira de la persévérance. Les épreuves de la vie ne sont pas un frein à la réalisation de l'œuvre de Dieu, mais c'est l'activation de ses promesses qui produiront de nombreux fruits glorieux. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça ? Souvent, nous associons la bénédiction à la prospérité. Mais la véritable bénédiction, c'est notre espérance que nous avons ici-bas et pour l'éternité. Ça, c'est notre réelle bénédiction. Éphésiens nous en parle, Hébreux nous en parle, Romains nous en parle. Et ce qui est intéressant, pour vous donner une image, j'ai vu une chaîne, je ne sais plus c'est quoi, c'est National Geographic, je crois, une émission où il y a des forgerons qui essayent de recréer des épées du Moyen-Âge, de la Renaissance et ce genre de choses. Et donc, ils essayent de recréer les plus belles épées, les plus solides, etc., etc. Et donc, il y a un gars qui était en train de créer une épée anglo-saxonne. Et il disait que c'était la plus belle, la plus grande épée qui existait, blablabla. Et à un certain moment, on voit qu'il prend un bloc de métal et qu'il le fait passer par le feu. Alors, ce bloc de métal, il passe par un feu qui peut monter jusqu'à 1300 degrés. Et donc, on chauffe ce métal Pourquoi ? Pour après le sortir, pour pouvoir le frapper et lui donner une forme. Après lui avoir donné une forme, qu'est-ce qu'on fait ? On le prend et on le tord. Pourquoi ? Pour pouvoir le rendre plus solide. Et ça m'a vraiment frappé quand j'ai vu cette émission. Et je me suis dit, waouh, c'est au travers du feu que ce métal peut prendre forme, peut devenir plus solide, et de cette manière-là, devenir un instrument utile dans les mains de son propriétaire. Ça m'a beaucoup parlé. Parce que souvent, quand nous autres, êtres humains, ce que nous désirons, c'est nous écarter le plus possible des épreuves. Alors, lorsque Jésus, lorsqu'il apprend aux apôtres à prier, il dira « ne nous soumets pas à la tentation », c'est exactement le mot « épreuve ». D'accord ? Donc on peut évidemment prier à Dieu, lui demander de nous éviter des épreuves. Ça, ce n'est pas un souci. Mais quelle est notre réaction lorsque l'épreuve survient et qu'on ne sait pas faire autrement ? C'est au travers de l'épreuve que le chrétien tend vers la maturité et que sa foi grandit. Alors que nous subissons un impact dans notre vie, qu'il y a un réel impact sur notre bien-être, sur notre personne, peut-être sur nos finances, sur notre santé, sur les circonstances de la vie, il est important de pouvoir nous dire, « Ok, je suis en train de vivre une épreuve, et de cette épreuve, je vais pouvoir ressortir, retravailler. Je vais pouvoir ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. » Pour pouvoir continuer donc sur le sujet, je vous invite à aller dans Jacques 1:1-8. C'est le texte de base donc pour ce matin. Donc Jacques 1:1-8, il est mis. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquels vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous les côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Amen. Alors, chers amis, ce matin, nous allons voir ensemble ce que Dieu nous a laissé au travers de cette parole pour nous permettre de supporter les épreuves avec confiance. Vous êtes avec moi ? Alors voici un petit acronyme qui permet de repérer les trois étapes principales dans le processus de triomphe sur les épreuves. Il est tout simple. A, B, A. Abba. Okay. A pour attitude, B pour bénéfice, A pour aide. Alors, l'attitude, c'est l'attitude que nous devons adopter dans les épreuves. Trop souvent, nous nous plaignons lorsque des épreuves surviennent et cette réaction ne contribue pas à notre maturité spirituelle. Je me mets dedans, ok ? Des épreuves, j'en ai, petites, grandes, des problèmes, machin, et je suis le premier à râler. Néanmoins, ça ne contribue pas à notre maturité spirituelle. Alors, il est intéressant de définir un petit peu ce qu'est l'épreuve. Le terme utilisé dans ce texte, donc pour définir l'épreuve, en grec, c'est perasmos, qui parle des épreuves extérieures, okay, ou on pourrait dire également des tests d'endurance, si je prends un terme sportif. Attention qu'un petit peu plus loin dans le texte, donc dans Jacques 1:13, il est parlé que personne, s'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », donc c'est un autre terme, c'est « perazo ». Et ça, par contre, ça parle des épreuves intérieures. Okay, c'est plutôt ce qui nous incite, ce qui nous tente à pécher. Donc, c'est deux choses différentes. Ici, donc, nous autres, on est en train de parler du perasmos, donc l'épreuve. Ce sont toutes sortes de détresses, en fin de compte, qui nous arrivent et qui, selon le plan de Dieu, servent à nous tester. On ne les cherche pas, elles viennent à nous. On ne sait pas faire autrement, elles arrivent. Voici comment nous devons entrevoir une épreuve qui survient. on autorise nos enfants à passer toutes sortes d'évaluations, que ce soit à l'école, que ce soit dans le sport, que ce soit à l'académie, si vos enfants font de la musique, peu importe. On autorise nos enfants à passer de nombreuses évaluations. Pour eux, c'est compliqué, ça demande beaucoup de travail, parfois ils pleurent, ça nous donne mal au cœur, et pourtant, on autorise ça. On autorise qu'ils passent des évaluations. Pourquoi ? Parce que c'est un objectif. L'objectif, c'est que ce sont des tremplins pour progresser et arriver à un nouveau niveau, à arriver à de la maturation. Alors, nous, qui acceptons cela pour nos enfants, pour quelles raisons nous n'acceptons pas ça dans nos vies ? Dieu est notre Père. Okay ? Ce qu'il veut pour nous, c'est que nous puissions être de plus en plus proches de lui. Ce qu'il désire de nous, c'est que nous puissions être de plus en plus matures, de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Ce qu'il désire, c'est que notre caractère soit façonné, prenne la forme de Jésus-Christ. Ce qu'il désire, c'est qu'on puisse refléter Jésus. Mais comment pourrions-nous refléter Jésus si nous ne passons pas par des épreuves, tout comme Jésus est passé ? Alors voici quelques éléments qui vont nous permettre, en fin de compte, d'identifier ces épreuves. Si vous ressentez que la situation vous touche comme un revers, ça peut être tout ce qui vous abat, ça peut être tout ce qui provoque en vous de la colère, du ressentiment, c'est tout ce qui nous offense, tout ce qui nous contrarie. Ce sont toutes ces choses que Jacques qualifie d'épreuves pour lesquelles nous pouvons les considérer comme des sujets de joie. Ça, c'est quand même quelque chose de particulier lorsqu'il utilise ce terme, une joie complète dans l'épreuve. On a l'impression que c'est deux choses complètement opposées. Et pourtant, Jacques les lit ensemble. Alors, est-ce que nous devons rechercher les épreuves ? Est-ce que nous devons accepter une forme de masochisme dans l'Église ? C'est pas ça du tout. On est bien d'accord. Bien sûr que non. L'attitude dont parle Jacques n'est ni le déni de ses problèmes, donc le fait d'occulter la réalité et de tenter de vivre avec, c'est pas non plus la méthode Coué où je fais genre tout va bien et dans le meilleur des mondes. C'est pas ça du tout, ok ? Je pense que c'est ceci qu'il veut nous transmettre. L'adversité par laquelle je suis en train de passer m'attirera dans une relation plus intime avec Jésus. Ce qui procurera un regard joyeux sur ce que j'ai par la foi, une espérance vivante, plutôt que ce que je n'ai pas à cause de ces circonstances. Nous ne sommes pas joyeux à cause des épreuves. Mais nous sommes joyeux dans l'épreuve, car celui qui tient ma vie entre ses mains m'attire à lui pour y trouver sa force et sa délivrance pour ma vie. Tout comme notre texte d'Hébreux tout à l'heure nous le révélait, ce que je suis en train de vivre pour le moment peut prendre fin aujourd'hui. Il y a des victoires, il y a des triomphes sur les épreuves. Mais il peut également avoir des attentes, et il peut également avoir des attentes qui n'arriveront jamais. Et comment le vivons-nous si nous ne voyons rien arriver ? C'est ça que nous devons travailler. Ce que nous savons, c'est que Dieu désire augmenter notre engagement envers lui au travers de l'obéissance et de la persévérance. Et donc, comprenez-moi, cette attitude, donc, elle est loin d'être passive, c'est une attitude active et combative. On garde en vue que le Dieu qui a créé les cieux et la terre peut changer toute épreuve, toute situation en une seconde. D'accord ? C'est pourquoi nous continuons à persévérer dans la prière et dans l'espérance. Et c'est bien pour ça que Jacques parle de joie complète. C'est parce que l'espérance active en nous cet espoir qu'il est tout au contrôle là maintenant et que de toute façon il est au contrôle pour l'éternité. Aujourd'hui je peux vivre une délivrance complète, mais de toute façon je vivrai une délivrance entière pour l'éternité auprès de lui. Alors mes amis, je voudrais vraiment nous encourager ce matin à adopter une autre attitude face à l'épreuve. Et donc je ne veux pas négliger les douleurs que ça provoque. Je ne veux pas négliger les angoisses que ça peut provoquer, d'accord ? Je sais ce que c'est. J'ai connu ça, et il y en a d'autres qui ont connu bien pire que moi, mais je veux vous dire que je comprends. Mais néanmoins, il faut adopter une autre attitude face à l'épreuve, pour pouvoir grandir. Alors justement, on arrive au deuxième point, qui est le bénéfice, d'accord ? Le bénéfice, c'est la maturité au travers de l'épreuve. Alors, pour vous expliquer ça, je vous explique une petite histoire. Il y a quelques mois, j'ai décidé de reprendre la course à pied avec Xavier. J'avais besoin de faire du sport et Xavier me dit « Ah ben, on va aller courir ». Enfin, lui, il avait déjà repris 2-3 séances, je ne sais plus. Et puis, il me dit « Ah ben, viens, rejoins-moi, on va courir, ok ». Et donc, je savais que j'allais littéralement mourir, en fait, dans les premiers kilomètres, ok. Et c'est clairement ce qui est arrivé, mais après 200 mètres, j'étais mort, quoi, j'étais cuit. Et la première fois donc j'ai repris la course, j'avais mal partout, le souffle coupé, des points de côté. Je criais après lui, je disais attends papa. Et donc voilà, j'étais vraiment vraiment mal. Et je sentais que mon corps n'en pouvait plus. Mon corps avait atteint ses limites et il me disait écoute grand, si tu fais encore 2 mètres, je tombe. Alors malgré la difficulté, puis j'ai eu un bon coach qui m'a dit allez Jérôme, ça va aller. Faut pas de la verbale. Ça va aller. Donc voilà, on l'a fait. Et je savais que cette reprise était importante pour moi, parce qu'il était temps que je me décroute un petit peu. Et donc, je n'ai pas occulté la difficulté, et j'ai toujours su que ce serait difficile, et j'ai continué, j'ai persévéré. Je n'ai pas utilisé la méthode Coué, parce que j'avais bien trop mal aux jambes, j'avais mal partout. Mais ok, ça m'a permis, ce qui m'a permis de tenir, en fin de compte, c'est les bénéfices. Alors, j'ai bénéficié de quoi ? J'ai bénéficié déjà d'un bon moment avec un ami. J'ai bénéficié également d'une libération de mon stress. Oh, ça m'a vraiment fait du bien, quoi. Voilà, pour le moment, au boulot, énormément de boulot, énormément de stress. Donc j'avais vraiment besoin de ça. Mon souffle aussi, directement, je me suis dit, tiens, quand je monte les escaliers, je me sens moins essoufflé, c'est une bonne chose. Et puis j'avais une meilleure concentration, j'étais plus efficace, etc. Donc, il y a eu du positif alors que j'ai réellement souffert. J'ai vraiment, vraiment, vraiment eu mal. Bref, j'ai accepté de m'engager dans cet entraînement difficile qui a pour objectif de donner à mon corps une meilleure vie et cette épreuve produit en moi de la persévérance. Mes amis, c'est exactement le même procédé que dans notre vie chrétienne. Exactement la même chose. Voyons les épreuves comme des moyens de grandir, de mûrir dans notre foi et dans notre caractère, car tout ce que nous vivons façonnera notre caractère à l'image de Jésus. Ne laissons pas cette occasion passer de laisser Dieu façonner nos cœurs uniquement parce que c'est difficile et parce que c'est dur. L'apôtre Paul nous rappelle, tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps, je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Amen. Jacques et Paul sont clairs. La persévérance accomplira quelque chose dans nos vies. Nous deviendrons des hommes et des femmes parfaitement qualifiés et sans défaut. Je nous encourage ce matin à être des chrétiens persévérants lorsque tout va bien, mais également lorsque ça devient difficile. Et ça, il y a le rôle de l'Église également. Le rôle de l'Église, c'est de nous encourager les uns les autres, à la persévérance. Le troisième point, c'est l'aide à recevoir pendant l'épreuve. Alors, ce qui est top dans ce texte, c'est que Jacques, en fait, il ne reste pas dans le domaine théorique, il passe également dans le domaine pratique. Il sait que la connaissance n'est pas suffisante pour pouvoir surmonter et triompher dans l'épreuve. Alors, une fois qu'il a exposé l'attitude à adopter face aux nombreuses épreuves, et les bénéfices qu'on pourra en tirer, ils s'attaquent à la manière de vivre ces épreuves. Et il y a une démarche simple. La première, la relation. C'est quelque chose dont on a parlé à de nombreux moments ces derniers mois, et c'est vraiment quelque chose d'important qu'on doit cultiver. On doit pouvoir se rappeler que notre Dieu est un Dieu de relation. Que vous le vouliez ou non, Dieu a fait de nous des êtres de relation, car il est lui-même un être de relation. Jésus a donné son corps pour nous permettre de retrouver une relation intime avec le Père. Avant, cette relation, elle était donnée uniquement au grand prêtre, et ils pouvaient rentrer une fois par an dans le lieu très saint pour offrir un sacrifice pour les péchés de la nation. Une fois par an. Aujourd'hui, chacun de nous qui suivons le Christ, nous pouvons aller dans la présence du Père. C'est quand même incroyable. Jésus a été le sacrifice parfait et unique donné au monde pour qu'il puisse hériter de la vie éternelle et d'une relation avec Dieu. Si nous désirons, je donne une image, si nous désirons un coup de main parce que notre maison est en train de brûler, il va falloir entrer en connexion avec les services incendie et dire « Écoutez les gars, j'ai besoin de vous. Ma maison est en train de brûler, moi je ne sais pas le gérer et donc j'ai besoin que vous veniez m'aider. » D'accord ? Il nous faudra avouer notre faiblesse face à la situation, face au feu qui est en train de consumer, et dire « Ok, moi j'ai besoin de votre aide pour pouvoir rester en vie, pour pouvoir traverser et surmonter cette épreuve. » Avec Dieu, c'est exactement pareil. Nous sommes en train de vivre une épreuve, nous pestons au lieu plutôt de rentrer en connexion avec lui. Alors, le deuxième point, c'est la sagesse. Il dit « si l'un de vous manque de sagesse ». Alors, je ne crois pas que Jacques veuille dire que certains sont remplis de sagesse et donc ils n'ont plus besoin de demander à Dieu de la sagesse. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est notre ressource dans ces moments d'épreuve se retrouve en Dieu seul et que nos capacités propres ne sont pas suffisantes pour nous permettre de traverser mois après mois, année après année, des épreuves. Et donc, je pense qu'on peut tous se retrouver dans ce verset. Si je manque de sagesse, je peux la demander à Dieu. Cette sagesse, elle n'est pas semblable à la sagesse humaine. Elle est bel et bien divine. Elle est issue de Christ qui est appelé sagesse de Dieu. C'est une sagesse qui nous permettra de prendre des bonnes décisions dans les situations difficiles. Et c'est également une sagesse qui va nous permettre de prendre les bonnes décisions, mais qui dépasse le simple bon sens. Ça nous entraîne à respecter Dieu avant nos intérêts. Et cette sagesse nous conduira à craindre Dieu pour qui il est. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin de cette sagesse. Parce que le nombre d'épreuves que nous allons devoir supporter dans notre vie, à un certain moment, ça va nous dépasser. Et il nous faudra quelqu'un de plus grand que nous pour pouvoir nous guider d'une autre manière. Je pense que c'est dans le livre d'Ésaïe, il est mis « Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. » Je pense que ce verset résume assez bien le bon sens et la sagesse de Dieu. Nous avons besoin de sa sagesse, tout comme il a fait avec Philippe, et il l'a conduit hors de Jérusalem et il l'a porté dans un désert pour rencontrer un Éthiopien. Qui prendrait le temps d'aller dans un désert en pensant pouvoir rencontrer quelqu'un? Qui le ferait? Mais cette sagesse de Dieu, elle nous conduit dans des voies qui nous sont insoupçonnées. Mes amis, cette sagesse ne se retrouve que dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la personnification de cette sagesse parfaite qui permet de traverser les épreuves les plus terribles. Gardons Jésus en tête lorsque les épreuves surviennent. Observons comment lui a géré ses épreuves. Observons comment les pères de la foi ont géré leurs épreuves. Alors qu'ils ont subi la trahison, du rejet, de l'incompréhension, la souffrance, la mort, ils nous apprennent tant de bonnes choses pour pouvoir surmonter l'épreuve et triompher d'elle. Alors comment recevoir cette sagesse? Je vais dire, il n'y a rien de plus simple. Okay. Et c'est tellement profond en fin de compte. Il ne tient à nous de le demander à Dieu et il nous l'accordera tout simplement et sans faire de reproche. Voilà, ça m'a beaucoup touché ce passage. Tout simplement et sans faire de reproche. Dieu est généreux et ne nous laissera pas sans aide. Ces décisions que tu n'arrives pas à prendre, ces situations que tu n'arrives pas à gérer, Dieu t'accorde sa sagesse pour pouvoir les traverser avec lui. Nous pouvons demander à Dieu son aide et sa sagesse. Méditons sa parole pour découvrir toutes ces richesses-là, pour pouvoir traverser ce feu avec lui. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, j'ai envie de dire à certaines personnes qui traversent des moments difficiles, Dieu n'est pas au bout de ses ressources. Dieu n'est pas au bout de ses ressources. Il est le Père des Lumières. Il est celui qui éclaire notre chemin. Il est celui qui ouvre la mer. Il est celui qui conduit son peuple au travers du feu et de la nuée. Mes amis, Dieu est avec nous. Dieu n'est pas au bout de ses ressources, mais bien plus, il donne sans reproche. Il ne s'arrête pas dans sa bonté de te donner sa sagesse, sa force, son amour pour t'aider à traverser ces épreuves. Dieu ne revient pas sur les erreurs du passé. Si tu as pris des mauvaises décisions, aujourd'hui, Dieu te dit, tu peux tourner la page. Tu peux de nouveau me demander ma sagesse et je te l'accorderai sans reproche. Quel encouragement pour nous, mes amis. Aujourd'hui, nous pouvons entamer quelque chose de nouveau. Séminaire de Pierrot, c'était aussi quelque chose de nouveau. Des outres neuves pour un vin nouveau. Aujourd'hui, Dieu nous rappelle, je te donne ma sagesse sans reproche. Tu peux tourner la page et affronter tes épreuves autrement. La seule part qui nous est demandée, c'est de demander avec foi, sans douter. Alors lorsque Jacques parle de vagues qui se bousculent de tous les côtés, il parle en fin de compte de notre esprit qui est indécis face à la capacité que Dieu peut nous venir en aide en fin de compte. Il désire nous rappeler que la prière, c'est pas une formule magique, c'est pas, mettre des mots bout à bout en espérant que quelqu'un peut-être va pouvoir nous entendre. Non. Dieu, ce qu'il désire, c'est que l'on vienne face à lui, dans sa présence, avec respect, et qu'on ait une vue éclaircie de qui est notre destinataire. Ce qu'il désire, c'est qu'on vienne avec un cœur vrai, véritable, authentique, qu'on sache à qui on s'adresse. Et c'est de cette manière que la prière ne sera pas empreinte au doute. Comme il a été dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'est toi Béja, je ne sais plus. Ah mais non, c'est toi Letty. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, mes amis. Nous pouvons nous approcher de lui au travers de la prière, avec authenticité, et lui dire, Seigneur, ce que je vis est au-delà de mes forces, mais j'ai besoin de ta sagesse pour pouvoir surmonter cette épreuve. Et avec ta sagesse, avec tes bénédictions, avec cette espérance que tu me laisses, je suis dans la joie, car je sais que tu ne me décevras pas. J'arrive à la conclusion. Je vais demander peut-être au groupe de louanges s'ils veulent bien revenir. Aujourd'hui, mes amis, nous pouvons laisser l'homme ancien avec ses doutes et ses indécisions. Derrière nous, laissons-le derrière nous et revêtons l'homme nouveau dépendant de la sagesse de Dieu qui nous permettra de traverser les épreuves de la vie avec la joie du Seigneur dans nos cœurs. J'aimerais vous laisser avec quatre petites paroles de réconfort. Quatre choses clés qui vont nous permettre de pouvoir souffler, de dire « Waouh, Dieu est réellement là ». La première, c'est que Jésus a souffert. Jésus a souffert pour nous. Jésus a souffert avant nous. Quelles sont les raisons qui nous feraient croire que nous ne souffrirons pas également ? Qu'est-ce qui nous permet de croire qu'en fin de compte, ce que le Maître a enduré, nous ne devrons pas l'endurer. Mais ce qui est bon, et j'arrive avec la deuxième petite clé, c'est que Jésus a souffert, et nous souffrirons également, mais Jésus est compassion. Jésus a compassion de nous. Et il comprend nos craintes, il comprend nos déceptions, il comprend nos faiblesses. Pourquoi ? Parce que Jésus a fait le choix de descendre sur cette terre. Parce que Jésus a fait le choix de donner sa vie pour nous. Parce que Jésus a fait le choix de revêtir un corps humain pour nous montrer la voie. Jésus a fait le choix de subir les épreuves, la tentation dans un corps mortel pour nous montrer le chemin, pour que nous puissions nous identifier à lui. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Jésus n'est pas un Dieu lointain. Il n'est pas comme certains chefs d'équipe qui restent dans leur bureau et qui ne connaissent pas ce qui se passe dans la production. Il n'est pas comme ce chef d'équipe qui est en train de renouveler ses exigences et qui met une pression et qui ne comprend pas la réalité du terrain. Dieu est descendu sur terre. Il a donné son Fils. Jésus a fait le choix de venir pour vivre comme nous, pour que nous puissions nous identifier à lui et pour que nous puissions avoir confiance complètement en lui. Pour que nous puissions dire, Seigneur, ce que je suis en train de vivre, tu l'as vécu avant moi. Et je sais que tu as compassion pour moi, pour ce que je suis en train de vivre. Troisième petite clé, Jésus, avant de remonter près du Père, a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et quelques jours plus tard, il envoya son esprit. Mes amis, l'Esprit de Dieu nous assiste dans nos épreuves. Si aujourd'hui tu crois que tu es seul, sache que l'Esprit est là. Quelqu'un me racontait un jour qu'à sa conversion, il a senti comme une main qui est venue se poser sur son épaule. Aujourd'hui, Dieu pose sa main sur ton épaule. Il est là. Quelles que soient tes difficultés, quelles que soient tes épreuves, Dieu est là. Il a compassion de toi. Et la dernière chose, Jésus continue d'intercéder pour nous. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Si aujourd'hui, peut-être que ton épreuve, c'est de croire que Dieu ne peut pas pardonner ton péché, tu te trompes. Dieu t'aime. Il a donné son Fils pour toi. Son sang a coulé. Et aujourd'hui, Jésus continue d'intercéder pour toi. Tu peux passer par la case de repentance sincère, réelle, et demande à Dieu de changer ton cœur. Il le fera. Il l'a fait pour nous. Il le fera pour toi. Jésus continue d'intercéder pour nous. Il continue d'intercéder pour nous. Il rappelle au Père, même si Dieu n'a pas besoin de rappeler, mais c'est une image pour que nous puissions comprendre. C'est comme un avocat qui est face au juge et qui dit, n'oublie pas que mon sang a coulé. Regarde-le au travers de mon sang. Regarde-le au travers de mon sang. Quelle grâce. Quelle grâce d'avoir été tiré vers un Dieu si grand et si bon. Quelle grâce d'avoir un Dieu si proche de nous. Si proche de nous. Quelle religion sur la terre peut prétendre avoir un Dieu si proche? C'est bien pour ça qu'on les appelle des religions. Ce sont les êtres humains qui essayent de s'approcher vers Dieu. Mais nous, c'est totalement l'inverse. Le schéma est inversé. C'est Dieu qui s'est approché de nous. C'est Dieu qui a tendu sa main vers nous. Et qui a dit, viens, viens avec moi. Je t'aime. J'ai des plans glorieux pour toi. Sur cette terre, mais bien plus grand encore au ciel. Alléluia. Levons-nous, nous allons prier ensemble. Alléluia. Seigneur notre Dieu, Combien nous te sommes reconnaissants, Papa, parce que tu nous as permis encore de pouvoir entendre ta parole. Tu nous as permis encore, Seigneur mon Dieu, de nous rappeler combien tu es bon. Combien tu es grand et bien plus grand que nos épreuves. Bien plus grand que nos détresses. Bien plus grand que les circonstances difficiles. Nous te remercions, Seigneur, car nous ne sommes pas seuls, Seigneur, dans l'épreuve. Et ce que nous désirons, Seigneur, c'est adopter premièrement une nouvelle attitude. Une attitude engagée. Une attitude où nous sommes prêts à être enseignables. Enseignables. Ce que tu veux de nous, c'est que nous puissions croître, que nous puissions progresser dans notre foi, progresser dans la connaissance de Jésus. Ce que tu désires pour nous, c'est que notre caractère et notre personnalité soient façonnés à l'image de Jésus. Ce que tu désires, Seigneur mon Dieu, c'est nous façonner à l'image de Jésus pour pouvoir illuminer le monde, pour pouvoir entrer dans cette mission. Et la mission est si grande, Seigneur. Elle est si grande dans cette région. Tu nous as placés, Seigneur mon Dieu, ici, pour que nous puissions resplendir. Et parfois, il nous faut traverser des épreuves difficiles pour pouvoir illuminer bien plus. Parfois, il nous faut passer par le feu. Il nous faut subir le coup du marteau et être tordu pour pouvoir être plus solide et pour pouvoir être un instrument utile entre tes mains. Alors Seigneur, nous nous ouvrons à toi ce matin. Viens changer nos raisonnements et nos mentalités. Viens changer nos cœurs, Seigneur. Et conduis-nous, Seigneur mon Dieu, sur le chemin qui nous amène à toi. Père, j'aimerais prier, Seigneur, pour chacun de mes frères et de mes sœurs qui sont en train de vivre des épreuves difficiles, compliquées, même petites. Je prie que tu puisses les assister. Je prie que tu puisses les aider. Je prie que tu leur accordes ta sagesse. Je prie qu'ils puissent s'approcher de toi, parce que c'est ta volonté que nous puissions entrer en connexion avec toi. Je prie qu'ils puissent prier avec authenticité. Et qu'ils puissent découvrir une nouvelle dimension de ta présence. C'est ce que nous désirons tous, Seigneur. Sois présent avec nous dans les moments difficiles. Sois présent avec nous dans les bons moments. Et tu l'es. Conduis-nous, Seigneur mon Dieu, à aller, à être plus proche de toi, Seigneur. À être plus proche de toi, Père. C'est cette relation, Seigneur, qui fait toute la différence. C'est cette relation, Seigneur, qui fait toute la différence. Bénis ton peuple ce matin, dans le merveilleux nom de Jésus. Amen.